Bonjour et bienvenue sur Europe 1 dans l'émission Les Athlètes de Dieu. Dans cette série d'entretiens, je rencontre des sportifs d'exception, des passionnés de sport, mais aussi des chercheurs de Dieu. Tous ont un point en commun, leur foi chrétienne, qu'ils considèrent comme une force motrice dans leur quête de performance et leur équilibre mental. Pour la première fois, ils acceptent de partager sur Europe 1 cette dimension intime de leur vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une véritable légende du sport français, Pascal Gentil. Il est le champion le plus décoré du taekwondo français. Le taekwondo, c'est un art martial coréen moderne, à la fois sport de combat et discipline éducative. Le Parisien de 52 ans est double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, triple champion d'Europe, 18 fois vainqueur du championnat de France. C'est un palmarès évidemment XXL. Immense athlète, connu pour ses coups de pied spectaculaires. Sa reconversion est tout aussi exemplaire, engagé en politique, dans la vie associative, pour les autres. Il continue pour le plaisir de combattre sur les tatamis. Mais Pascal Gentil est aussi un athlète de Dieu.
Athlète de Dieu, un podcast de la rédaction d'Europe 1 avec le soutien d'Holy Games.
Bonjour Pascal.
Comment vas-tu?
Moi ça va très bien.
Ouais, j'écoutais ton introduction. Je dirais que je suis peut-être le deuxième athlète, puisqu'on a Altea Lorrain qui fait une très belle médaille d'or, et je n'ai jamais décroché l'or olympique, et qui a fait une belle médaille aussi à Tokyo en 2021. Donc elle est double médaille olympique comme moi, mais elle a le titre. Donc je suis le premier chez les hommes, mais le deuxième français. Donc voilà.
C'est une immense émotion, mais en même temps c'est un peu une frustration quand on l'entend.
Oui, quand même, toujours, puisque à l'époque le taekwondo c'était un sport où il fallait marquer en frappant des plastrons. Il y avait un arbitre qui appuyait ou non. Et à plusieurs reprises, en demi-finale, je suis tombé face à des sud-coréens, pardon. Et comme un petit peu comme en boxe, les juges ne voyaient pas ce qu'il fallait voir. Et voilà. Et donc depuis, je crois que la dernière fois en 2004, il y avait le souverain, le prince Albert de Monaco, qui est membre du CIO, qui était venu, qui était parti frustré. Et le président de la Fédération mondiale a pris de panique, se dit il faut absolument qu'on change quelque chose. Et du coup, on a mis de l'électronique. Et maintenant, c'est un sport où tout le monde a ses chances. Il y a des jeunes d'Afghanistan, de Côte d'Ivoire, de partout du monde, et qui gagnent des médailles et des médailles d'or. Donc voilà, c'est un sport où il y a de la vidéo replay, où on respecte l'intégrité des athlètes, ils sont protégés de la tête aux pieds. Enfin voilà, donc ça a bien changé tout ça.
Vous auriez été champion olympique?
J'aurais pu, mais voilà, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et voilà, je suis passé par des épreuves, mais par la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui quelqu'un d'épanoui et de comblé.
Je ne sais pas si c'est une phrase de l'évangile, qui ne te tue pas te rend plus fort. En tout cas, elle est belle, vous êtes là. Et c'est vrai qu'on a une pensée notamment pour ces sportifs. On parlait tout à l'heure en antenne d'Alexis Vastine, qui malheureusement nous a quittés dans un accident terrible, dans un jeu télévisé, un
droit. Ouais,
et Camille Muffa également.
Ouais, je peux même en dire un petit mot, puisque j'avais participé déjà avec Andemol à un jeu de réalité qui s'appelait La Première Compagnie, avec Vincent Moscato et plein d'autres, le père Castaldi et plein d'autres personnes comme Nathalie Simon. Et en rentrant de Chine, il m'avait proposé de faire le jeu Dropped, et je rentrais de Chine, j'avais beaucoup travaillé dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, et je trouvais que aller après tout de suite dans un plateau, sur les plateaux de télé, pour faire du divertissement comme j'avais fait en 2007, c'était un petit peu en décalage, et du coup j'ai refusé. Mais si j'avais accepté, j'aurais été moi également dans l'hélicoptère avec Camille Muffa, avec Florence Artaud.
Florence Artaud, navigatrice.
Et Alexis Vastine.
Est-ce que d'une certaine façon, il ne le prenait pas mal, hein, parce qu'évidemment il y a eu, c'est dramatique, des morts, et on a une pensée toute particulière pour leur famille, pour ces personnes, ces immenses champions qui nous ont quittés. Mais est-ce que d'une certaine manière, Pascal Gentil, là on va très loin dans l'interview alors qu'elle vient à peine de commencer, dans les athlètes de Dieu, est-ce que d'une certaine façon il y a eu la main de Dieu pour vous dire...
Complètement. Je pense que souvent, j'aime dire que si j'avais couru vers l'argent, j'aurais dit « Oh oui, super, j'aurais pris encore un beau cachet, j'y serais allé. » Et là, voilà, le Seigneur m'a préservé, et j'ai pas accepté, alors que je connais très bien Alexandre Laranche-Joubert. Et finalement, j'y suis pas allé. Et quand j'ai vu ce qui s'est passé, quand j'ai vu comment Sylvain Wiltord est passé très proche, puisqu'il a été éliminé dès le premier jour, et du coup, on l'a ramené, et donc le deuxième jour, il n'était pas dans l'hélicoptère, quoi. Et ça s'est joué à pas grand-chose, quoi.
Vraiment. Vous en avez discuté avec lui, avec Sylvain ?
Non, on n'en a pas parlé avec Sylvain, mais c'est quelque chose qui est marquant. Hein.
Bien sûr.
Et dans la même année, on avait eu évidemment ce crash de la Germanwings. Et moi, je travaillais dans la sûreté, dans les Alpes.
Oui, oui.
Et j'avais toutes mes équipes de sécurité qui sécurisaient l'environnement de ce crash. Et ça s'était très bien passé. Et pour nous remercier, la compagnie nous avait invités au match France-Allemagne, au Stade de France. Celui-même où il y a eu les attentats et où il y a eu des explosions. Alors, c'était une année 2015.
Si 2015, peux... c'était voilà, en 2015, voilà, exactement.
Si je ne me trompe pas.
Non, c'est sûr. J'y étais d'ailleurs, ce match terrible où les joueurs sont restés très longtemps toute la nuit. Les Allemands voulaient repartir rapidement. Les Français sont restés par solidarité. Didier Deschamps a même proposé à Joachim Löw, le sélectionneur allemand, de venir à Clairefontaine. Et puis, la très très bonne gestion. Il y a eu ces anniversaires, puisque là, on est en 2026. Il y a quelques mois, on a fait un podcast exceptionnel sur Europe 1 sur ce triste anniversaire des attentats, et le président François Hollande avec tous les services de l'État avait très bien géré cette affaire.
C'est vrai, j'étais aux commémorations, notamment au Bataclan, puisque je suis réserviste dans la police aujourd'hui, entre autres dans la marine, et j'étais au Bataclan avec tous les services de l'État, et on a participé à ces commémorations.
Le 13 novembre 2015, ces attentats. Et là aussi, dans les athlètes de Dieu, on a une pensée pour toutes les victimes, évidemment. Alors, on a été vraiment déjà secoués par vos propos, Pascal Gentil, dans l'émission Les athlètes de Dieu. Je rappelle que c'est une émission que nous proposons avec le soutien de Holy Games. Vous connaissez très bien ce mouvement.
Ah oui, je connais très très bien les Holy Games. Et d'ailleurs, je les félicite. Et Isabelle en tête pour tout le travail.
Isabelle de Châtelus.
De Châtelus, bien évidemment, que tout le travail qui a été fait pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, et pas que. Mais c'est vrai que pouvoir, dans un moment de doute, de stress, pour avoir gagné ou pas, au sein même du village olympique, avoir cette possibilité de pouvoir parler à un curé, à un évêque, à un prêtre, à un imam, voilà, d'avoir toutes ces confessions réunies, peut-être pas un évêque, je me suis un peu emporté, mais.
Il y avait Monseigneur Gobillard, hein.
Ouais.
Donc il est évêque, lui. Évêque de Digne, je crois.
Donc,
et c'est président d'Holy Games.
Donc voilà, c'était quand même assez, assez remarquable. Et je trouve ça fondamental, parce qu'un sportif de haut niveau, finalement, c'est quelqu'un qui cherche la performance, qui se donne à fond et qui peut avoir des moments de doute. Et après avoir participé à cette grande fête, on peut aussi avoir des moments de doute, et c'est important.
Ouais, il faudra évidemment qu'on en reparle de cette aumônerie des sportifs, et c'est important parce que dans certains pays, il y a des accompagnements qui sont faits, alors pas forcément en France, mais quand on pense aux aumôniers militaires qui sont très précieux pour la marine, pour l'aviation, eh bien ce sont des personnes, hein, ces aumôniers, qui sont évidemment mentalement, qui aident beaucoup à la cohésion du groupe.
Ouais, tout à fait, j'ai la chance de travailler aujourd'hui depuis 2022 pour le groupe ADP, aéroport de Paris, et je rencontre beaucoup les aumôniers en charge des aéroports. Je ne vais pas les citer parce que je vais écorcher leur nom.
Alors mais... vous savez que je suis allé, moi, parce que je connaissais un ancien aumônier de l'aéroport de Paris, d'Orly.
D'Orly,
et il y a, alors les gens ne le savent pas forcément, mais une chapelle.
Ouais.
Une chapelle multiconfessionnelle, et ça, je trouve ça formidable. Il y a des personnes, on trouve des musulmans, des juifs, et même des personnes athées qui viennent pour se recueillir, en tout cas pour avoir une petite pensée vers l'au-delà.
Bien sûr, il y a des espaces pour pouvoir jouer à la PlayStation, il y a des endroits où on peut faire un peu d'activité physique, et évidemment, il y a un lieu pour pouvoir se recueillir, et c'est essentiel et c'est important parce que l'homme ne vivra pas seulement de nourriture, mais aussi de
cette relation divine. La transcendance, elle est très très importante, effectivement. Bon, on voit que vous êtes un sportif de haut niveau, parce que c'est vous qui êtes en train un peu de tirer les ficelles dans cette interview.
Désolé,
j'ai plein de questions qu'on a préparées avec Isabelle et Constance, qu'on salue, qui sont là dans ce studio. Bon, ne me soyez pas désolé, c'est formidable. Là, on a des échanges qui sont extrêmement riches. Vous avez 4 bougies, c'est la tradition de cette émission.
Ouais.
Et je vais vous demander d'en choisir une pour commencer. La bleue, comme le costume et sans doute comme le maillot, et vous êtes un patriote, c'est pour ça, non ?
Tout à fait, ouais.
Bien.
Ouais, j'aime beaucoup.
Alors, il y a une phrase, je vous propose de la lire.
Ouais. Les derniers seront les premiers. Magnifique, j'aime beaucoup cette phrase.
Alors, pourquoi ?
Parce que je suis un grand sportif de haut niveau, J'aime dire que je suis une légende, mais dans un petit sport en fait. Les gens ne connaissent pas beaucoup le taekwondo et j'ai cette humilité. Les gens des fois me connaissent, des fois ne me connaissent pas. Et quand j'ai commencé ce sport à 18 ans, j'ai tout de suite dit je veux être champion, je veux chercher des médailles, je veux. Et on m'a tout de suite dit monsieur, c'est pas possible. Si vous vouliez être champion, il lui fallu commencer à 5 ans ou à 6 ans comme tout le monde. Et moi j'ai dit non, laissez-moi une chance. J'ai travaillé 2 mois dans un restaurant et avec cet argent de poche, je me suis payé ma première licence. Et donc je me suis toujours battu pour accéder à mes rêves. Et 3 ans après, j'étais champion de France, champion d'Europe et 2e à la Coupe du Monde avec seulement 3 ans de pratique.
Hallucinant.
Et 9 ans après, j'étais aux Jeux Olympiques. Donc, quand quelqu'un me dit ce n'est pas possible, je dis, je refuse le c'est pas possible. Aujourd'hui, tout ce que j'ai appris dans le sport, je mets en pratique dans ma vie de tous les jours. Et évidemment, avec la foi que j'ai, je suis un peu comme un extraterrestre. En fait, les gens, ils se disent, mais lui, il doute de rien, il a peur de rien. Et donc, les premiers seront les derniers. Voilà, c'est une phrase qui me touche tout particulièrement parce que je suis un petit, en fait. Les gens, souvent, ils voient Pascal Gentil.
1m98, quand même.
Ouais. Ils voient toujours Pascal Gentil en grand costume, machin truc. Mais finalement, voilà, je suis un sportif amateur. J'avais pas de moyens. Je suis pas un sportif professionnel. Je suis pas champion du monde, comme je te disais tout à l'heure. Je suis pas champion olympique. Je suis pas champion du monde. Mais les gens, dès qu'ils entendent Pascal Gentil, ah ouais, c'est le champion du monde. Ah oui, c'est le grand black. Dès qu'on parle de taekwondo, ah ouais, c'est le grand, là. Et souvent, les gens, ils savent pas. En fait, j'ai dépassé le cadre de mon sport, en fait. Je suis celui qui a fait démocratiser cette discipline. Voilà.
Oui, donc vous êtes une personnalité française. C'est-à-dire que vous appartenez maintenant, d'une certaine façon, au cœur des Français. Vous appartenez plus complètement.
Complètement. Et c'est marrant parce que j'étais pas prédestiné à ça, en fait. Et voilà. Donc, je suis très content de cette petite phrase.
Alors, cette phrase, elle est belle. Vous avez été quand même très souvent premier. On reviendra sur cette médaille de bronze. Vous en avez parlé, évidemment, ces 2 médailles de bronze. D'abord, ce qui serait intéressant de savoir, c'est de nous parler de ce sport, qui est le taekwondo, parce que les gens ne connaissent pas forcément. C'est vrai que moi, j'ai des images, j'ai beaucoup des images de vos combats, de cette médaille de bronze, etc., de choses qu'on se demandait. Vous étiez absolument exceptionnel, vous en avez parlé tout à l'heure, on se disait il allait être médaille d'or, mais c'est la médaille de bronze. Et on a été très heureux, parce que c'était la première fois en 2000 que votre sport était olympique. C'est quoi ce sport?
Alors, c'est avant tout l'escrime des arts martiaux. C'est une discipline qui vient de Corée du Sud et où on utilise à plus de 90-95% des techniques de jambes. Donc c'est très aérien, c'est très en rotation. Avec les pieds, on a le droit de frapper l'adversaire au corps, au-dessus de la ceinture, au corps, au buste et à la tête. Et avec les mains, uniquement au buste. Donc ce qui fait qu'on utilise beaucoup les jambes parce qu'on fait des assauts. Un petit peu comme un escrimeur qui vient de la pointe de son épée toucher une cible, ben on fait la même chose avec les pieds. Et c'est vraiment très aérien et très acrobatique. Et c'est ce qui m'a séduit dans cette discipline.
Bon, écoute, il faudrait que j'essaie un jour, mais je ne suis pas très souple. Je ne sais pas, c'est peut-être pas un conseiller.
Moi, j'étais pas souple à 18 ans et maintenant, je peux faire un grand écart encore.
C'est incroyable. On a des images de vous. Vous êtes en train de faire un grand écart sur la table. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas possible, mais vous reviendrez sur Europe 1 pour nous faire le grand écart. Alors, vous avez des bougies. Vous en avez déjà choisi une. Il vous en reste 3. Laquelle souhaiteriez-vous allumer ? Virtuellement, on le rappelle, on est dans un studio.
Virtuellement, j'allume la bleue encore.
Bon, super. Décidément, le bleu, ça, vous adorez la bleue. Et quelle est la phrase ?
Alors, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, verset 10.
Est-ce que vous avez été faible à un moment donné ?
Évidemment. Qui n'a pas été faible sur cette terre ? Donc, quand je suis faible, je mets les genoux à terre et je demande à mon Seigneur Jésus Tout-Puissant de me donner la force de surmonter cette épreuve qu'il met face à moi. Et comme Dieu, dans son amour, ne nous met pas d'épreuves trop lourdes pour chacun d'entre nous, il nous connaît, il connaît nos limites. Donc, on franchit cette épreuve avec succès parce qu'il en a décidé ainsi. Et si on échoue, on apprend que cet échec est le cheminement vers une réussite future parce qu'on sait où on va et que finalement on ne peut pas réussir de la première fois. Donc ça nous apprend un petit peu comme dans le sport, la résilience et la persévérance, et j'aime beaucoup dire le sacerdoce.
Cette foi vous a aidé dans votre carrière?
Oui, complètement. Moi, je suis l'aîné d'une famille de 7 enfants. J'ai toujours été tourné vers l'autre, vers mon prochain. J'ai toujours, et encore aujourd'hui, j'allais dans les prisons, dans les écoles, dans les hôpitaux, les enfants malades. À l'école, j'étais délégué des délégués. Au collège Jean Massé à Fontenay-sous-Bois, pour ceux qui écoutent.
On salue.
Et je défendais les jeunes en conseil de discipline. Et quand je suis devenu sportif de haut niveau, je me suis dit, comme dit Superman, de grands pouvoirs amènent de grandes responsabilités. Donc voilà, j'ai voulu mettre cette petite notoriété que j'avais au service des autres. Et moi, je crois qu'on est tous sur Terre pour une raison, et pour faire du bien autour de soi. Et voilà, c'est ce que je fais. Et voilà, souvent on me dit que je suis politique, mais moi ma politique c'est l'autre en fait, c'est de faire du bien autour de moi, c'est d'aider son prochain. Encore ce matin, j'ai eu une histoire extraordinaire de quelqu'un qui est en difficulté et qui a besoin d'aide pour des levées de fonds, pour amener son enfant aux États-Unis pour un traitement. Et évidemment, je vais mettre tout mon réseau à disposition pour pouvoir...
Alors on en parle Pascal, on en profite, les athlètes de Dieu, quelle est cette personne, quel est le souci?
Alors c'est une collègue qui travaille dans le groupe ADP et dont son fils de 14 ans est atteint d'une maladie rare et ils vont devoir partir aux États-Unis et on est en train de mettre en place une collecte de fonds. On lui a dit qu'il n'avait que 18 mois à vivre et donc on peut pas se résigner à laisser le jeune homme partir comme ça et il y a un traitement expérimental qui existe aux États-Unis et on va tout faire pour leur permettre de s'il y a une chance qui existe que le Seigneur dispose des choses et que les gens puissent donner et qu'ils puissent partir là-bas et qu'ils puissent essayer ce traitement et voilà nous on fait notre niveau et le Seigneur fera le reste.
Ce qu'on fera, c'est qu'on relayera ces informations. On a le site europe1.fr. Il y a aussi le site d'Holy Games. On pourra en parler. Et je vous signale également, parce que j'ai suivi la construction d'une très belle association, Margot pour la vie. Margot, qui est une jeune qui est décédée d'une maladie rare il y a quelques années, et ses parents, qui sont à Reims, ont créé cette association pour créer, notamment, donc, pour mettre en place un QG des 100 diagnostics. C'était une sorte d'hôpital vraiment pour toutes ces maladies rares et Dieu sait qu'il y en a malheureusement beaucoup.
Malheureusement, ouais.
Et ça pourrait être aussi un soutien dans cette quête justement de fonds pour des soins aux États-Unis en espérant que bientôt il y aura ces soins aussi en France et on salue tous les soignants évidemment. On a un très beau système de santé en France et on a cette chance là. Alors vous parliez de foi, cette foi là elle est venue comment Pascal Gentil? Famille chrétienne, famille.
Mon père est pasteur.
Ah oui, alors là, ça change tout, ça aide beaucoup.
Et je voyais mon père prier, l'étude biblique. Déjà, quand j'étais jeune, j'allais au catéchisme, donc catholique, et j'ai eu cette sensibilité.
Ça vous a plu? Ça vous a pas barbé?
Non.
Les cours de caté?
Je pense que je dois avoir ce côté un petit peu, au-delà de mon côté showman, je dois avoir ce côté un peu spirituel. Je pense que je suis quelqu'un qui a besoin d'équilibre. Et l'équilibre, c'est d'être dans des choses différentes. J'ai cette image tout de suite du yin et du yang, le noir dans le blanc dans le noir. Il faut un équilibre dans les choses. Souvent, quand je rencontre des jeunes qui cherchent leur voie, je leur dis, il faut que ça parte de vous, de ce que vous êtes, de ce que vous aimez. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous donne envie? Et ensuite, il faut travailler, il faut lire, il faut apprendre, il faut participer à des conférences et autres. Il faut vraiment chercher et rester focus sur son objectif. Et après, une fois qu'on a fait ça, il faut aussi avoir un équilibre en face. Ça peut être, de la lecture, ça peut être du sport, ça peut être une foi, ça peut être... La musique, il faut un équilibre dans les choses, voilà. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps à 100% et sinon c'est impossible.
Pascal, votre papa, pasteur.
Pasteur au 275 avenue Daumesnil, à Paris, dans le 12e. Clair,
ouais. Mais alors, comment ça se traduit? Il travaillait, il était pasteur? Ça,
alors, il était préposé PTT.
Ouais.
Il travaillait en tant que facteur. Il faisait sa tournée. L'hiver, il revenait avec des sacs avec plein d'argent. Et du coup, moi, je croyais qu'on était riches. Parce qu'il vendait des calendriers.
Ah bah oui, les fameux calendriers de la PTT.
Les almanachs, ouais. Avec les chats, avec les chevaux. Et quand vous êtes jeune.
C'est la joie. Franchement, quand vous accueillez, moi, j'ai des souvenirs dans ma grande maison. On a eu cette chance-là, moi aussi, de famille nombreuse. Vous accueillez le facteur, hein, tout le monde qui descend. Ah, monsieur le facteur, etc. Ouais. Et puis on discute. Parfois, et souvent, on l'accueillait pour boire une petite coupe de champagne avec modération.
Ouais, je sais pas si il avait droit à ça, mais en tous les cas, je me souviens quand j'étais jeune, quand il rentrait avec sa sacoche de la poste, avec toutes ses pièces et tout. Toi, t'es gamin, tu dis, oh, mais on est riche, en fait. Et voilà, c'est des souvenirs qui sont marquants. Et puis dans la vie conjugale, c'était pas toujours tout rose, et des fois maman dormait dans notre chambre et tout, donc c'était très très difficile. Et un jour, je crois que mon père a rencontré quelqu'un qui lui a parlé de Dieu, et du jour au lendemain, sa vie a changé. Il a commencé à lire la Bible, il a commencé à prier, et là on a notre vie a changé, quoi. Notre vie a changé complètement. Oui. Ma mère, au début, elle était un peu inquiète et se comprenait pas. Et puis, petit à petit, on allait à l'église, on allait écouter la parole de Dieu, on allait prier. Et puis voilà. Et moi, j'ai persévéré. Aujourd'hui, je continue à aller le dimanche quand je peux, puisque je rentre d'un dîner caritatif à Monaco, donc je n'étais
pas... Dieu vous bénit, hein. Dieu vous bénit. Ces phrases-là, Pascal, elles sont...
Richement, il me bénit au centuple.
C'est beau, ça, de reconnaître votre chance, entre guillemets, parce que le mot chance, vous êtes allé chercher évidemment tout ça, mais ça, c'est assez marquant, frappant. C'est-à-dire que vous avez un papa pasteur, il y a l'évangile qui arrive dans la famille, cette famille s'apaise.
Oui,
c'est extraordinaire.
Complètement. Plus de violence, plus de mots plus haut que l'autre, et de l'harmonie. L'harmonie, voilà. L'harmonie, c'est ça.
Alors justement, j'ai une petite carte à vous transmettre. Une carte Holy Games. Il faut que je... Voilà. Hop, c'est parti. Vous pouvez la lire.
Quel passage de la Bible vous accompagne dans les moments importants de votre vie? Je dirais Jean 3,16. Voilà, j'y suis. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Amen.
Amen.
Non, ouais, voilà, j'aime beaucoup ce passage.
Vous avez peur de la mort, ou vous êtes dans la confiance?
Non, peur de la mort, mais non, pas du tout.
Parce que cette phrase-là, elle est bon. Elle nous invite à la vie, mais ça veut dire aussi qu'il y a un passage.
Oui, il y a un passage, mais quand on est enfant de Dieu, on a une espérance vivante qu'un jour nos yeux verront Jésus et Dieu, son Père, et que nos œuvres, enfin, nous serons jugés selon nos œuvres et ce qu'on aura fait sur cette terre. Et non, j'aime beaucoup ce passage parce que Dieu nous a tellement aimés avant même qu'on s'en rende compte, avant même notre conception, qu'il nous a donné son fils qui était parfait. Il l'a sacrifié, et que dans son sang, dans ses meurtrissures, on est la vie éternelle. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien, tous les jours. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour moi.
Est-ce que cette foi a grandi?
Oui, forcément, elle a grandi. Mais le feu... Je pense que c'est le Saint-Esprit. Ce feu est descendu sur moi et il a toujours été constant. Je sais pas si ça a grandi, mais voilà, tout de suite j'ai été touché par la grâce, béni. Et effectivement, quand tu vois les épreuves défiler, quand tu vois les bénédictions, tu vois, tout à l'heure tu dis que j'ai été béni, ben, je dis que je suis béni au centuple. Je pense à, par exemple, en 2022, quand je suis rentré de Chine, ça faisait 10 ans que je vivais à l'étranger, on est au mois de juin. Mon épouse me dit, bon, ben, finalement, on va pas retourner en Chine. On était en vacances, hein, on devait repartir. Et là, la rentrée des classes, c'était le 2 septembre. Et je devais trouver un travail entre le 15 juin et le 2 septembre. Juillet, août, en général, c'est pas trop le moment où on trouve du travail. Et le Seigneur a ouvert les portes. Et fin juillet, j'avais signé mon contrat et j'ai commencé le 29 août 2022.
Génial, un signe.
Au mois de septembre,
j'ai... Dans quoi?
Aéroport de Paris.
À l'aéroport de Paris, toujours un DP.
Ouais.
Pascal Gentil, votre palmarès, même si vous n'avez pas été champion olympique, il est colossal. Est-ce que Jésus est fier de vous?
C'est une très bonne question. Je ne me le suis jamais posé. Je pense qu'il est fier de chacun de ses enfants, dont tu fais partie, dont je fais partie, et dont Tous ceux qui sont autour de cette table font partie également. Et voilà, tout comme une mère aimante qui aime chacun de ses enfants, je pense que Jésus est fier de chacun de ses enfants.
Pascal, dans cette émission, on doit encore allumer des bougies.
Okay.
Laquelle vous souhaiteriez allumer ?
Ben, je vais allumer la bougie jaune. Et il est écrit « Puisez votre énergie dans le Seigneur ».
Alors là, honnêtement, Pascal, vous avez puisé votre énergie dans le Seigneur.
Ah, complètement.
Il n'y a pas que les entraînements.
Non, il n'y a pas que les entraînements. Il y a la vie de tous les jours. Quand on est sportif amateur, il faut vivre, il faut chercher des sponsors, il faut intéresser les médias, il faut gagner et gagner et gagner. Et il faut apprendre de ses échecs et il faut réussir à signer des partenariats avec des marques. Mmh. Et ces marques, souvent, elles sont OK pour signer un partenariat qui stipule que pour gagner un peu d'argent, il faut gagner des médailles.
Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que votre sport, c'est pas le football. On reçoit Olivier Giroud dans cette émission. Il a un témoignage extraordinaire, mais il a pas, visiblement, c'est normal, ce besoin de recherche de financier.
Ah, mais moi, la bataille était totale sur le tatami en dehors,
Parce que sport pas assez médiatisé, d'une certaine
façon. Parce que sport pas médiatisé, parce que pas de revenus, parce que pas de médiatisation, parce que voilà. C'est un peu le chat qui se mord la queue, en fait. On a beau avoir un très grand champion, si personne ne le sait, ben on peut pas s'y intéresser. Mmh. Et si on s'y intéresse pas, ben il peut pas gagner d'argent parce que il aura pas d'intérêt auprès des marques. Donc j'aime dire que moi je suis connu parce que je suis passé deux fois à la télé, en gros, une fois en jeu de 2000, une fois au jeu de 2004, et un petit peu pendant cette semaine, pendant le jeu de télé-réalité que j'avais participé, qui était la première compagnie. Mais voilà, je suis pas comme un footballeur qui passe régulièrement à la télé tous les week-ends, et j'ai construit ma carrière sur deux jours, donc il faut vraiment pas se louper.
Ce qui est aussi étonnant, Pascal, quand on écoute vos propos, cette foi transmise à la maison par un papa pasteur, un évangile toujours ouvert, une foi qui a grandi, un amour pour les autres, le sens du service, c'est que vous êtes engagé, encore aujourd'hui, puisque vous le pratiquez, dans un sport de combat.
Oui.
Il faut battre l'autre. Mais qu'est-ce qu'il y a de chrétien dans ça ? Pardon, je vous titille.
Ah non, mais vous me titillez pas du tout. Déjà, le taekwondo, c'est avant tout, pour moi, ça a été un moyen d'expression. Ça a été un moyen d'émancipation. Et l'autre n'a jamais été un ennemi. Il est un adversaire. Et il est avant tout, pour moi, dans ma conception, une étape vers ma réussite future. Il est un problème que je dois résoudre. C'est pour ça que aujourd'hui, quand j'ai des difficultés ou dans les réunions, quand ils disent « Ah, ben ça, c'est pas possible », je sais qu'il y a une solution qui existe et il faut juste trouver la solution. Et quand on est athlète et qu'on a pour objectif de décrocher l'or, parce qu'il n'y a que l'or qui existe quand on est champion, ben on a des difficultés face à des adversaires qui sont diverses et variés, on ne les connaît pas.
On se met jamais à la place de l'autre. Mais c'est pour ça que vous êtes champion aussi, parce que je vois bien que la mentalité du champion depuis les années que je couvre le sport, je suis vraiment ébloui, émerveillé par la mentalité du sportif de haut niveau. Mais jamais faut se mettre à la place en disant oh là là, bah si je gagne, mais en fait c'est l'autre qui va perdre.
Non, il faut pas se mettre à sa place. Mais sinon on ne fait rien. Non, il faut être conscient que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Il faut être conscient que dès qu'on te donne ta chance, il faut la saisir. Il faut être tout de suite engagé à 2000% pour faire la différence. Il faut être conscient que même si tu gagnes aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est peut-être plus fort que toi ailleurs, mais qui n'a pas eu la possibilité de monter dans l'avion ou d'avoir le bon visa. Et donc, il faut avoir cette humilité de se remettre au travail très rapidement. Et voilà, c'est un peu tout ça. Et finalement, je vais parler de David. David, quand il...
David contre Goliath. Alors, c'est marrant parce que c'était la question que j'allais vous poser. Quel passage de la Bible en rapport au combat vous préférez ? David contre Goliath ?
Tout à fait, ouais. Voilà, David qui affronta Goliath. Et si je ne me trompe pas... Est-ce que je me trompe avec Paul ? Mais qui est devenu roi ? C'est bien David ?
C'est David ? Ouais. C'est le roi David.
Ouais, ouais.
Et bon, Saint Paul, il a aussi combattu les gentils. Oui. C'était un lutteur. Voilà, c'était un lutteur. Il n'a pas fait que du bien, mais il est devenu saint. Donc ça nous donne quand même un chemin d'espérance.
Voilà,
il a combattu les chrétiens au départ, me rappelle Isabelle. Et effectivement, saint Paul, ensuite, il y a une conversion dans le désert. Et il était en route pour, vers Damas.
C'est Saul de Tarse, c'est ça ?
Voilà.
Je ne me trompe pas.
Ah, oui, c'est ça. Saint Paul de Tarse. Magnifique.
Ouais, non, j'aime beaucoup ce passage avec David, ouais, qui est David contre Goliath.
Alors David,
la persévérance.
Il est face à quelqu'un qui est 100 fois plus fort que lui.
Ouais, mais l'obéissance et il réussit à le terrasser et voilà. Donc moi je suis croyant, je me croyais jamais le plus fort, mais j'avais cette force mentale qui faisait que j'arrivais à faire la différence, et quand je n'arrivais pas à faire la différence, je me remettais tout de suite en question et je me disais, tu as forcément fait quelque chose de mal et il faut que tu retournes au travail, et voilà. Et souvent, j'entends beaucoup parler de sacrifices. Les gens disent, oui, mais vous avez dû faire des sacrifices pour en arriver là. Et je dis, non, j'ai pas fait des sacrifices, j'ai fait des choix, parce qu'on ne, on ne peut pas s'entraîner 6 heures par jour sans le vouloir, sinon on arrive à l'entraînement un petit peu comme certains de mes camarades, complètement démotivés, complètement voilà. Donc moi j'allais au bagne avec la joie, avec la foi, parce que je savais que jour après jour j'étais là pour progresser.
En 2000 et 2004, vous auriez dû être champion olympique. Est-ce que vous avez pardonné aux arbitres, à vos adversaires qui n'ont pas reconnu que vous étiez plus fort qu'eux, tout simplement?
C'est une très bonne question. J'aurais pu pardonner si on m'avait donné l'occasion. J'ai rencontré mon adversaire et évidemment, lui, je lui ai pardonné parce qu'il n'a rien fait, même s'il a célébré, mais il ne pouvait que célébrer puisqu'on lui a donné la victoire. C'est marrant parce qu'il a rencontré mon épouse, sans doute au CIO, je ne sais plus à quelle occasion, et il lui a dit « ton mari aurait dû gagner ». C'est quand même incroyable
exceptionnel.
Que mon adversaire... a dit ça à mon épouse. Mais voilà, les arbitres, voilà, ben si je leur ai pas pardonné, je les pardonne aujourd'hui de ce qu'ils m'ont fait, de cette souffrance, et je les remercie en même temps parce que ça m'a rendu plus fort aujourd'hui.
En 2008, vous êtes blessé. Est-ce que là aussi, c'est un manque qui est revenu souvent dans votre tête en vous disant à 2008, à Pékin, j'aurais dû être là?
Non, je n'ai jamais été... voilà, le Seigneur connaît toutes choses et j'étais là-bas pour commenter les Jeux. Et d'ailleurs, j'ai rencontré l'amour de ma vie là-bas. Donc, j'ai rencontré mon épouse aux Jeux Olympiques à Pékin.
Ah oui. Et comment ça s'est fait ?
Elle était directrice des services linguistiques des Jeux Olympiques de Pékin 2008. Elle parle couramment en mandarin, elle écrit, elle le lit, elle le parle. Et on avait une amie en commun qui avait fait le même master que nous, Sophie Götzweiler, à l'ESSEC, avec Tony Estanguet, avec Romain Lachance, Michael Alozio, tous ces gens qui ont fait l'organisation de ces Jeux et la réussite
magnifique
de Paris 2024.
Sûr.
Et après son master, elle est partie en Chine et elles sont devenues amies. Et elle lui a toujours dit, j'ai un gars super, j'ai un pote, tu verras mon pote. Et puis voilà, normalement tout ce qui se passe au village reste au village. Mais voilà, je suis rentré en France, c'était la crise financière. Et puis j'avais des copains qui couraient nus dans les rues de Paris, qui cherchaient des sponsors. C'était très très difficile, des grands athlètes comme Christine Aron perdaient leurs sponsors. Et j'ai décidé de partir en Chine. Le Seigneur a ouvert la porte. J'ai eu une très belle opportunité là-bas pour travailler pour Veolia grâce à Georges Mora, le patron de Veolia Asie. Et il m'a pris sur son aile. Il m'a tout appris du métier de la sûreté, de la sécurité. Et en externe, je m'occupais de toutes les relations institutionnelles pour le groupe auprès de la chambre de commerce et de l'ambassade. Et quand je suis arrivé en Chine, j'ai appelé Héloïse, et mon épouse, et elle était partie à Singapour pour travailler pour l'organisation des Jeux de les premiers Jeux de la jeunesse.
Oui, c'est ça,
à Singapour.
Jeux de la jeunesse, ouais. Bien sûr.
Et puis voilà, et puis elle est revenue, et puis voilà, on s'est vus, et on s'est mariés en 2015, et on a fêté nos 10 ans l'année dernière. Donc,
bravo, des enfants?
Et je suis l'homme le plus heureux du monde, puisque j'ai deux enfants, j'ai une deuxième fille, et j'ai un fils.
Un fils et une fille.
Voilà, une fille super. Et un fils, avec mon épouse, Ellie, qui est née en Chine, et qui a fêté ses 7 ans le 24 novembre 2026.
Quel a été le moment le plus dur dans votre carrière? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous êtes appuyé sur le Seigneur et vous êtes dit oula, c'est franchement là, si tu m'aides pas, ça va être compliqué.
Ben, ça a été la première médaille olympique cette demi-finale où je suis volé par un arbitrage et ouais, c'était très dur. Je suis l'ambassadeur de ce sport, les médias me connaissent, ils connaissent ma combativité, donc personne n'attendait de moi que je jette l'éponge. Et en tant qu'ambassadeur, diplomate, on ne peut pas cracher dans la soupe de son propre sport et dire « c'est tous des voleurs, comment ça ?» Enfin, voilà, c'était un nouveau sport. Ceux qui ont vu, mais ils ont vu ce qu'ils ont vu, puisque c'était une toute nouvelle discipline. Même moi, quand je regarde le judo encore aujourd'hui, je ne comprends pas tout, la lutte aussi. Alors que je connais très très bien David Douillet, et Teddy Riner et tous ces grands champions comme Gagné Yalouze.
Oui, il y a la lutte aussi.
À la lutte. Enfin, mais il y a des subtilités. Donc, voilà, quand on ne connaît pas. Donc, voilà, j'ai préféré me taire, mais ça a été difficile et j'ai prié et surtout j'ai remercié le Seigneur que finalement mes parents étaient en bonne santé et que tout ceci n'était que du sport.
Voilà. Est-ce que vous priez avant d'entrer sur un tatami?
Non, je prie le matin, je prie pour le repas, je prie pour remercier pour la journée, je prie, mais pas pour le sport, non, je peux pas demander au Seigneur de donner la force de battre l'autre, non, le sport pour moi c'était comme un travail, je m'entraînais 6 heures par jour. Et les épreuves, ça pouvait être les blessures, ça pouvait être évidemment le championnat, la difficulté, l'étape par étape, adversaire par adversaire. Mais non, je suis pas un peu comme le footballeur qui va rentrer sur la pelouse et qui va se signer, qui va faire son rituel. Non, j'étais pas comme ça.
Vous avez beaucoup voyagé dans le monde entier ?
Énormément voyagé dans le monde entier, beaucoup en Asie, aux États-Unis. J'ai gagné plusieurs fois l'US Open, Las Vegas. Non, j'ai beaucoup, par la grâce de Dieu, grâce au sport, j'ai beaucoup voyagé. Ma première Coupe du Monde, c'était aux îles Caïmans. J'étais militaire à Agen dans les transmissions. Et j'avais une autorisation du chef de corps de quitter le territoire français. Et j'avais été à Miami en escale. Et ensuite, j'avais combattu à la Coupe du Monde aux îles Caïmans. J'avais ramené ma première médaille d'argent pour ma première compétition internationale. Et puis, quelques mois après, il y avait les championnats d'Europe à Zagreb, en Croatie. Et ils m'ont rappelé, l'équipe de France. Et là, ils se sont dit, mais ce mec-là, il est incroyable. À chaque fois qu'on l'envoie sur une compétition, il ramène des médailles. J'étais le seul médaillé pour les îles Caïmans à la Coupe du Monde. Je sais pas si j'étais le seul champion d'Europe, mais voilà, régulièrement, je ramenais des titres. Et voilà, ma carrière a commencé comme ça, très rapidement.
Et le plus bel endroit que vous ayez visité, Pascal Gentil?
J'ai beaucoup aimé la Nouvelle-Calédonie.
Ah oui.
L'île des Pins, tout ça, c'était incroyable. On était parti en stage d'équipe de France et on avait loué un catamaran, cette réverbération, c'était vraiment magnifique. Quand je vois la beauté de la création, de ce que Dieu a créé, c'est somptueux. Voilà, je dirais sans hésitation, la Nouvelle-Calédonie.
Avant de faire la bougie, de l'allumer, cette petite carte.
Dans quel lieu vous sentez-vous particulièrement en paix ? Dans ma chambre, à genoux, la porte fermée. Là, je suis en paix, avec mon Seigneur, avec ma Bible. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Parfois, beaucoup de gens cherchent une quête. Ils ont besoin de s'évader, ils ont besoin de voyager, ils ont besoin de partir loin. Ils ont besoin de faire des pèlerinages. Quand on connaît celui qui nous a créés à son image, et quand on a cette espérance et surtout sa parole comme lumière, il faut, comme disait Firmin Richard dans le film La Première Étoile, si tu ne demandes pas, le Seigneur ne te donne pas. Hein.
La Première Étoile, c'est le film de ski, là.
Oui, oui.
La référence est géniale. C'est un peu les successeurs des bronzés fonds du ski.
C'est ça. Il faut prier.
C'est vrai que c'est très, très drôle. Alors, c'est vrai que j'aimerais vous lire cette phrase. En tout cas, c'est ce que disait Saint Augustin, qui peut aussi nous éclairer dans ces échanges qu'on a sur Europe 1 dans les athlètes de Dieu. Et d'ailleurs, je signale qu'il y a un très beau livre qui a été écrit par Arnaud Boutéon, Comme un athlète de Dieu, manifeste sportif et chrétien qui nous a, sans doute avec Isabelle de Châtelus, donné l'idée du titre de l'émission « Athlète de Dieu ». Saint Augustin a dit que dans toute l'histoire, toute l'histoire est un combat entre deux amours, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi dans le martyre. Nous sommes pris dans ce combat et dans ce combat, il est très important d'avoir des amis. Merci à vous tous pour la communion des joies et des douleurs. Allons de l'avant, le Seigneur l'a dit. Courage, j'ai vaincu le monde. Nous sommes dans l'équipe du Seigneur et donc dans l'équipe gagnante. Merci à vous tous, le Seigneur vous bénisse tous. Levons nos verres. Avec modération, encore une fois. Mmh. Elle est belle, hein ?
Ouais, magnifique.
On est dans l'équipe des gagnants, Pascal.
On est dans l'équipe des gagnants, c'est ça. Avec Dieu, tu es plus que vainqueur.
C'est beau, hein, parce que c'est vrai que dans le sport, il y a des défaites. Mais au final, il faut se rappeler que la victoire, elle est là.
Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?
Et j'aimerais qu'on parle aussi, parce qu'on parlait de lieu, qu'on parle aussi du pape. Oui. Parce que le pape, on en a un nouveau, qui est le pape Léon XIV, qui nous a parlé de trêve olympique, prophétie d'un monde réconcilié, dans sa lettre au sport, dans la lettre « La vie en abondance ». La trêve olympique, alors qu'on vient de vivre les Jeux olympiques d'hiver, qu'on est dans un monde très bousculé, avec des guerres, avec des divisions, le sport peut aider à pacifier.
Complètement. D'ailleurs, je rentre de Monaco, comme je vous disais, et ils sont en effervescence là-bas, puisque le pape sera à Monaco, je pense, dans une semaine. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Il était à Marseille en 2024, juste avant les Jeux, si je ne dis pas de bêtises.
Le pape François, oui.
Le pape François, oui.
Vélodrome qui était en ébullition.
Complètement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un contexte international qui est complètement déréglé, qui est très compliqué. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec une fondation qui s'appelle Peace and Sport, qui est une des fondations du Prince Albert, qui fait la promotion de la paix par le sport, dont Didier Drogba est notre directeur général. C'est une fondation qui est pilotée par Joël Bouzou, et dont évidemment le souverain on a son haut patronage. Prince Albert.
Le Prince Albert qui est absolument exceptionnel, j'aurais le rappeler sur Europe 1, en profiter aussi pour saluer Jacques Vendroux. On avait rencontré le Prince Albert dans son palais, il nous avait accueillis vraiment simplement, alors que c'est un chef d'État. On avait pu discuter, il y avait un portrait de la princesse Kelly, sa maman, qui était... nageuse, lui a fait du bobsleigh, donc c'est un athlète de Dieu lui
ouais,
aussi.
Complètement. Et c'est quelqu'un qui a la foi, que je connais très bien, et je pense qu'il va accueillir le pape avec beaucoup de respect évidemment, mais il aura sans doute un mot pour le sport, parce qu'il est membre du CIO et c'est quelqu'un qui est aussi un athlète de Dieu, puisque on peut être chef d'État et être aussi un athlète de Dieu.
Le pape Léon qui aime le sport, comme le pape François, mais pas le même sport. Lui, c'est plutôt le tennis, hein, il est américain, péruvien aussi. Alors que le pape François argentin, lui, c'était un fan de ballon rond.
Ouais, football, ouais, évidemment.
Le football, vous aimez, d'ailleurs, Pascal Gentil ?
J'aime beaucoup, puisque Aéroport de Paris, pour lequel je travaille, est sponsor du Paris FC. Et j'ai la chance d'aller à tous les matchs du Paris FC. De suivre les filles à Charletti et les garçons. Ils ont encore gagné ce week-end contre le Havre. J'aime beaucoup le foot qui est populaire et qui crée des émotions. Des fois, il y a des renversements de situation. Et puis voilà, il y a tellement de fanatiques dans le foot qu'on ne peut pas y passer à côté quand on voit des copains qui s'arrivent le lundi, qui sont tristes parce que leur équipe a perdu et tout et tout. Donc voilà, c'est des sujets de conversation aussi.
J'en profite pour vous poser justement cette question parce qu'on parle de football, on peut parler de l'Olympique de Marseille, on peut parler des South Winners, ça vous dit quelque chose ?
Complètement.
Alors, parce que quand on revient sur votre carrière, la carrière s'arrête et finalement vous reprenez le taekwondo quelques années plus tard,
oui,
c'est ça ?
Ouais, je reprends. De toute façon, je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter en fait. Est-ce que ça me plaît ? J'aime ça. Et effectivement, en 2024... J'allais partout dans les écoles pour parler des choses olympiques et paralympiques, pour parler du sport, des valeurs du sport. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais jamais dit à mes enfants que j'étais un champion, que j'avais été un champion, en fait. Et donc, du coup, je me dis, mais je vais dans toutes les écoles, mais je vais jamais dans l'école de mes enfants. Et du coup, j'y suis allé, et puis j'aurais parlé de sport, j'ai sorti mes médailles olympiques et autres. Et je leur expliquais que le sport, c'est quelque chose qui t'aide à te dépasser, qui te permet d'échouer, mais qui te permet aussi d'atteindre des objectifs. Et finalement, je leur ai dit, plutôt que de vous expliquer, je vais vous montrer. Du coup, je me suis remis en selle et j'ai refait des compétitions. Leur père, qu'ils ont toujours vu, affalé sur le canapé, en train de zapper, en train de regarder la télé. Ah, tiens, c'est mon pote, Omar Sy, c'est mon pote, Jamel Debbouze, c'est mon pote, c'est mon pote, c'est mon pote. Ils l'ont vu en train de faire du sport, en train de transpirer, en train de, voilà. Et ils n'ont pas compris. Ils m'ont vu gagner en Belgique, ils m'ont vu terminer troisième à Poitiers. Et ils m'ont accompagné au championnat de France. Et j'ai pas gagné, ils étaient en train de pleurer. J'ai eu une standing ovation ce jour-là, c'était en 2024. Et les gens étaient surpris de voir comment j'étais revenu en forme. Et voilà, même si j'avais pas gagné, j'étais à haut niveau. Et ça, voilà, c'était une belle leçon pour eux. Bon, ils sont un peu jeunes, il a 7 ans aujourd'hui. Et enfin, Eli et Mila a 9 ans aujourd'hui. Donc, ils en avaient 7 et 5 à l'époque. Et voilà, c'est une leçon de vie, voilà. Et...
Parce que vous êtes, Pascal, un peu la Jeannie Longo ou du taekwondo. 18 titres de champion de France.
Ouais, mais elle, c'est plutôt 18 titres de championne du monde, elle.
Oui, mais elle est, je crois que c'est vrai que c'est... elle est vraiment au-dessus de tout le monde. Ouais, c'est un peu phénoménal. Hein.
D'ailleurs, j'aime beaucoup Jeannie. On l'avait fait intervenir pendant les Jeux Olympiques. Elle était venue rencontrer les collaborateurs du groupe ADP. Pour parler de résilience, pour parler d'accueil, de délégation. Non, c'est vraiment une athlète exceptionnelle. Et bon, je suis tout petit à côté d'elle.
Et on la reçoit dans les athlètes de Dieu, évidemment. Jeannie Longo, on est allé la voir à Grenoble. Elle est absolument incroyable. C'est un épisode à écouter vraiment d'urgence. Parce que Jeannie Longo a plein de révélations à faire. Et vous entendrez notamment qu'elle a une dévotion à la Vierge Marie.
Ah, super.
Est-ce que Pascal Gentil... Vous parliez de tout à l'heure, ça a été un moment fort de cette émission. J'ai pas besoin de me déplacer, je suis dans ma chambre, je me mets à genoux, j'ouvre la Bible, je prends une page, je lis et je prie. Est-ce que, malgré tout, vous êtes allé sur des lieux saints? Est-ce que vous êtes déplacé à Jérusalem? Est-ce que vous êtes allé à Rome? Est-ce que vous êtes allé à Lourdes? Est-ce qu'il y a eu des voyages qui ont été entrepris pour vous rapprocher ou en tout cas pour nourrir votre foi?
Non, parce que...
Pas du tout.
Enfin, oui.
Ah.
Pas pour nourrir ma foi. J'ai eu la chance d'aller au mur des Lamentations. J'ai été à Tel Aviv et la mer morte. Donc voilà, tous ces passages que tu lis dans la Bible, voilà, quand tu vas, entre guillemets, en Terre Sainte, ouais, c'est quand même fort. Donc voilà, et évidemment, c'était dans le cadre du sport.
Parce que les Juifs, on le rappelle, hein, c'est la racine de la foi chrétienne.
Tout à fait.
Jésus était juif, donc il y a tellement de ponts entre leur religion et la nôtre.
Ouais, complètement. Et donc, j'ai eu énormément de plaisir à aller là-bas. Et c'est marrant parce que le taekwondo, c'est un sport qui est pratiqué dans le monde entier. À l'époque, ils étaient très forts en Espagne, mais notamment en Iran. Et j'avais été en Iran, et quand il y a marqué Iran... tampon iranien sur le passeport et qu'après tu vas à Israël, c'est un peu compliqué. Mais bon, quand tu es sportif de haut niveau, tu as cette chance de pouvoir aller partout.
Bien sûr. Et on a une pensée particulière pour les Iraniens, pour les Israéliens, pour les Libanais, voilà,
pour les Palestiniens, pour tous les peuples qui sont en souffrance en ce moment, partout dans le monde.
Pascal Gentil, vous avez une carrière absolument exceptionnelle, mais vous êtes une pile électrique. Parce que vous avez continué de réaliser énormément d'activités partout. ADP, on parlait tout à l'heure, parce que les auditeurs ne vont peut-être pas comprendre, mais les Sauce Winners, c'est les supporters de l'Olympique de Marseille.
Oui, complètement.
Donc,
ouais.
Vous les avez vus, vous les avez
rencontrés. Oui, je les connais très bien. Alors en fait, j'ai une particularité. J'ai fait toute ma carrière à Aix-en-Provence, de 1996 à 2006. Et ensuite, je suis remonté à Paris, puisqu'on voulait avoir les Jeux de Paris 2008, et j'ai fait très peu d'années à l'INSEP à Paris. Et en fait, toute ma carrière, j'étais à Aix-en-Provence, et j'étais licencié au club d'Aix-en-Provence, j'ai commencé au SMUC à Marseille, puis Aix-en-Provence, puis à Saint-Raphaël, et aujourd'hui, je suis licencié à Monaco. Et Monaco, ça a été toujours pour moi quelque chose, avec mon copain Stéphane Courbis, on allait voir Thierry Henry et Trezeguet jouer. Donc voilà, je soutiens en termes de cœur, Monaco en premier, l'Olympique de Marseille en deuxième qui m'ont accueilli comme un enfant d'adoption, J'ai fait 3 coups d'envoi au Vélodrome, dont le premier match de Georges Weah.
Ah oui, quand même.
Donc les coups d'envoi de Pascal Gentil au Vélodrome, c'était quelque chose. Hein.
Et il est devenu président du Liberia quand même.
Ouais, complètement. Je prenais le ballon, je le lançais et je faisais un coup de pied retourné avec le talon et j'envoyais le ballon. Et tout le Vélodrome se levait, ou bien je faisais des 360, ça s'appelle ballon, et je le chopais en vol. Hein. Et c'était vraiment quelque chose, donc génial. Marseille. Et puis Paris, parce que je suis né à Paris. Et puis aujourd'hui, le Real, évidemment, par rapport à Zidane, que j'ai rencontré, que j'ai eu la chance, il venait voir sa famille à Marseille. Et il venait de temps en temps faire la fête avec Dugas à Aix-en-Provence.
Donc vous avez fait la fête avec Zidane ?
Un petit peu, quand j'étais jeune.
Sympa.
Et aujourd'hui, le Paris FC, à qui, voilà, où je suis à tous les matchs dans le cadre de mon travail, et je prends énormément de plaisir. Côté de M. Ferracci et M. Antoine Arnaud.
Oui, ils sont formidables, oui. Effectivement. C'est une très très belle ambiance dans ce stade Jean Bouin. On suit les aventures du Paris FC également sur Europe 1. Alors, vous avez notamment essayé de faire de la politique, Pascal Gentil.
Oui, je ne sais pas si j'ai essayé, mais j'ai fait et je fais encore. Et souvent, les gens me disent, ouais, mais toi, tu es politique, tu vas finir en politique. Et j'ai dit, mais moi, je n'ai pas besoin de mandat pour faire de la politique. J'aime les gens, je suis dévoué, j'aide et voilà, effectivement, quand j'étais en Chine, je me suis présenté et j'ai été
élu. Député.
Voilà, j'ai été d'abord conseiller consulaire, représentant des Français de l'étranger. Donc j'avais un mandat, je m'occupais des Français de Pékin, de Corée du Sud, de Ulaanbaatar bref, j'oublie la quatrième ville.
Mais c'est pas grave, vous avez pas mal voyagé, vous étiez dans ce secteur-là de l'Asie.
Et effectivement, après, j'ai fait une campagne pour être député des Français de l'étranger de la 11e circonscription qui va de l'Ukraine jusqu'au Vanuatu. Donc, j'étais.
Exceptionnel. Et vous avez été battu?
J'ai été battu, hein, j'ai fait presque 10% au premier tour. Ouais. Et j'étais pas porté par un parti. Et tout le monde m'a dit, mais t'as fait 10% sans être affilié à un parti, c'est assez remarquable. Et voilà, c'était une très très belle expérience. J'allais à la rencontre des Français pour parler des problématiques d'éducation, de bourses scolaires, de sécurité et autres. Et c'était vraiment un moment. Et c'est toujours en ligne droite avec ma personnalité, avec cette dévotion pour l'autre. Voilà. Donc c'est pas la politique pour la politique. C'est ou la politique dans le sens au sens noble. À la disposition du peuple, tout simplement.
Pascal Gentil, est-ce qu'il y a une musique qui vous apaise ?
J'aime bien la chanson qui fait « Je suis né pour... »« Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. » Je sais pas si vous connaissez, mais j'aime beaucoup ce...
Si, on connaît.
Petit... Ah, pardon. Oui, vous me laissez chanter
Bien sûr, parce que vous chantez très bien.
Voilà, j'aime beaucoup ça.
Eh ben, c'est super. Et on n'a pas besoin de la diffuser, fait. Parce qu'en fait, vous l'avez chanté pour nous.
Quand je contemple ta sainteté, et que j'en contemple ton amour... Enfin voilà, ouais, franchement,
vous mettre un peu de batterie, non ?
Oui.
De guitare, ça pourrait être sympa. Pascal Gentil, il y a aussi le cinéma pour terminer.
Ouais.
Et ça, c'est pas du cinéma.
Non, c'est vrai que quand j'étais sportif de niveau, j'aimais ça. D'ailleurs, j'ai rendu un bel hommage au Figaro vendredi sur Chuck Norris qui nous a quitté, qui était un grand acteur. Qui a fait des arts martiaux et qui
C'est Walker Texas Rangers,
c'est ça, complètement, qui a démocratisé les arts martiaux au grand public à Hollywood. Oui, j'aimais ça, mais bon, après, on peut pas tout faire. Et puis, pour réussir dans le cinéma, il faut être comme dans le sport de niveau, il faut être à 100%. Donc du coup, voilà, j'ai mis ça de côté et j'ai arrêté de vouloir être acteur et j'ai été acteur de ma propre réussite.
Est-ce que le seigneur, aujourd'hui, continue dans ses activités-là à être très présent dans le sport, oui, mais est-ce que là, pour vous guider dans tout ce que vous faites, est-ce que vous ne dites pas d'ailleurs de temps en temps, arrête-toi, Pascal, prends du temps pour toi ?
Si, évidemment, il le dit et il permet que je puisse avoir ces moments, notamment en famille. Pour écouter la parole de Dieu, pour avoir des moments de communion fraternelle. Et on le fait. Et je remercie le Seigneur qu'on puisse passer aussi avec mes amis de Holy Games ces moments. On a passé un super moment de mission chrétienne avec Olivier qui nous a rejoint
Olivier,
ouais, sur l'écran. Et j'ai des moments aussi avec des réunions de jeunesse. Donc, c'est bien d'aider son prochain, mais c'est aussi bien d'aider les chrétiens et de faire des choses pour eux et pour les aider à franchir des paliers et des étapes.
Pascal Gentil qui nous parlait à l'instant du congrès Mission. Pascal Gentil qui est la légende du taekwondo, ce sport coréen absolument dingue. On vous invite à regarder ces vidéos, notamment de ces médailles, deux médailles de bronze 2000-2004. On a deux dernières questions dans les athlètes de Dieu sur Europe 1 à vous poser. La première question, est-ce que vous avez un saint ou une figure qui vous inspire particulièrement?
Je dirais...
Ça peut être un sportif, ça peut être un croyant, ça peut être...
J'ai donné David tout à l'heure.
Olivier Giroud nous a parlé de Nelson Mandela.
Mandela?
J'ai trouvé ça magnifique.
Ouais, Mandela, c'est très fort.
Ben Saint-Paul, ouais. Génial. Saint-Paul et David, voilà. Mmh. David contre Goliath, ouais. Saint-Paul. On a les deux figures là qui sont d'ailleurs des figures exceptionnelles. Et...
Saint-Paul, si je ne dis pas de bêtises, il a pas fait que du bien autour de lui, mais à la fin, il a été...
On commence pas forcément bien, mais on termine bien. C'est ça qui est, ouais, qui est très beau, c'est la miséricorde de Dieu.
Exactement.
C'est le chemin qu'on souhaite à tout le monde, ce chemin d'espérance pour ceux qui écoutent les athlètes de Dieu. Dernière question pour vous, Pascal Gentil, on est très heureux de vous avoir reçu.
Merci beaucoup. Qui est l'athlète de Dieu à qui vous souhaitez passer le micro? Ben, je ne vais pas dire Olivier Giroud parce qu'il l'a déjà. Je dirais Moïse Rinner ou Teddy Rinner, je ne sais pas, un des deux.
Et vous me parliez tout à l'heure du prince de Monaco?
Prince Albert, ouais, c'est une très très bonne idée. On peut lui passer le micro sans problème.
Parce que le prince Albert, ce sera un formidable athlète de Dieu sur Europe 1.
Bon, bah, je vais l'appeler et on va lui lancer l'invitation.
Génial. Merci Pascal Gentil d'avoir accepté de répondre aux questions d'Europe 1 dans cette émission Les Athlètes de Dieu, de nous parler de votre parcours exceptionnel de sportif, mais aussi votre foi en Dieu qui est vraiment, vraiment ancrée. Et on l'a bien compris, cela vous permet d'aller vers les autres, d'aller visiter des personnes en prison, des malades, de donner des conférences, et puis aussi... grâce à ce podcast et à cette émission sur Europe 1, de toucher de nombreux cœurs. Merci Pascal.
Merci à vous.
Et à bientôt.
À bientôt.